Et donc, je serais ravi de faire votre connaissance après la réunion. Parce que quand je viens au Togo et aussi en Côte d'Ivoire, j'apprécie beaucoup le contact avec les frères et les sœurs. Pas seulement dans les réunions, mais après, et aussi à la maison. Donc on aime, moi quand je viens, j'aime rendre visite à beaucoup de saints. Autant que je puisse. Donc c'est vraiment c'est une joie de connaître les frères et les sœurs. Donc je suis arrivé vendredi avec frère Philémon et aussi avec frère Jasper qui a lu la Bible en anglais. Donc c'est vraiment un privilège d'être avec vous. Donc nous serons ici jusqu'à quoi? Jusqu'à lundi prochain. Le 22 février. Donc nous avons déjà eu deux réunions, une vendredi soir et l'autre hier soir. Et le fardeau cette fois, c'est la captivité et le retour à Dieu, au Seigneur. Donc si vous avez les grandes lignes, vous allez voir le titre qui est la captivité du peuple de Dieu. On n'aime pas être captif. Dans aucun domaine de la vie, dans tous les domaines de la vie, on ne veut pas être captif. On veut être libre. La liberté, c'est quelque chose que nous voulons, n'est-ce pas? Donc chaque pays veut sa liberté. Chaque peuple veut sa liberté. Même souvent, les enfants veulent être libres. N'est-ce pas? Ils ne veulent pas être sous leurs parents. Ni sous leurs professeurs. L'indépendance. Mais ça, c'est une mauvaise liberté. Bon, mais la liberté dont nous parlons, c'est la liberté qui est en Dieu. Mais même pour connaître la liberté qui est en Dieu, nous devons d'abord connaître notre condition. Qui sommes-nous? Quelle est notre condition? Nous sommes captifs. Et donc, nous avons vu un peu, depuis le début de la Bible, Dieu nous donne notre condition. Il nous dit qui nous sommes. Parce que le problème, c'est que nous pensons que nous allons assez bien. Nous avons Dieu, plus ou moins. N'est-ce pas? Peut-être le dimanche matin, nous avons Dieu. Et c'est bien. C'est bien d'avoir Dieu au moins une fois par semaine. Ben c'est mieux que jamais. N'est-ce pas? Tout est relatif, on peut dire. Donc, une fois par semaine, pas mal. Peut-être 2 heures ou 3 heures. N'est-ce pas? Il y a une chanson en anglais. Une chanson. Pas en français, je pense pas.
Mais le français, bien.
Où l'écrivain dit que un moment avec Christ, un moment de Christ avec Christ, vaut plus que toute l'éternité sans Christ. A Christ-filled life, one moment of a Christ-filled life in English, that song. If I had the world but lost the Savior. Si j'avais le monde, mais si je perdais le Sauveur. N'est-ce pas? Donc, même un moment avec Christ vaut plus que rien, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous sommes contents avec cela? Est-ce que nous sommes contents d'être des chrétiens de dimanche? Des chrétiens, n'est-ce pas, de convenance. Des chrétiens quand ça nous convient. Et puis, libres. Mais c'est la mauvaise liberté. Libres de vivre comme nous voulons le reste du temps.
premier.
Donc Dieu, dans sa sagesse, nous montre qui nous sommes pour nous éclairer, pour nous montrer notre vraie condition. Autrement, nous ne la saurions pas. Parce que nous sommes assez satisfaits. N'est-ce pas? Donc, la captivité, n'est-ce pas, depuis la chute de l'homme. Quand l'homme, Adam, a voulu exercer son indépendance. Même d'être comme Dieu. Mais sans Dieu. Sans prendre la voie de Dieu. Dieu lui avait défendu de manger, n'est-ce pas? Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le serpent, n'est-ce pas, l'ennemi subtil, qui est très très habile, parce qu'il ne contredit pas Dieu, mais il met en question ce que Dieu dit. Dieu a-t-il dit que tu ne mourras pas? Vous voyez, il n'a pas dit que Dieu n'avait pas dit. Dieu a-t-il dit que tu ne mourras pas? En fait, tes yeux seront ouverts, n'est-ce pas? Tu seras comme Dieu, sachant quoi, la différence, n'est-ce pas, entre le bien et le mal. Voyez, donc c'est Satan qui a offert à l'homme une autre voie d'atteindre Dieu. Non, Satan ne vous dira pas souvent quittez Dieu. N'ayez rien à voir avec Dieu. Plutôt, il va vous tromper en vous présentant Dieu, mais selon sa manière. Et donc, nous, n'est-ce pas, dans notre simplicité, dans notre naïveté, nous allons dire, oh, ça, c'est assez bien. C'est ce que l'homme a fait. Ève, elle a vu le fruit. Elle a vu que, ah, c'était pas mal, ça. Et elle en a mangé. Et depuis ce temps-là, l'homme a commencé à vivre une vie en captivité. Et éventuellement, Dieu a jugé le monde avec le déluge dans la Genèse 6, etc. N'est-ce pas? L'homme avait chuté à un tel point que Dieu n'avait aucun autre choix que de juger la terre et d'appeler une nouvelle race, d'appeler un homme,
Abraham,
qui a commencé à suivre Dieu selon la voix de Dieu par la foi. Éventuellement, Dieu a gagné pas seulement un homme, mais il a gagné un peuple à travers
Jacob,
Joseph, éventuellement à travers Moïse. Dieu a gagné des vases qui étaient prêts à écouter Dieu et à abandonner leur propre voie. Leur propre manière de vivre. Donc, Moïse a dit, n'est-ce pas? Moïse a répondu à Dieu. Dieu cherche toujours des bases. Qui va répondre à Dieu? Qui va être prêt à suivre Dieu tel que Dieu le veut? Le problème, c'est que nous voulons suivre Dieu. Parce que dans l'homme, il y a quelque chose qui correspond à Dieu. Parce que Dieu a mis l'éternité dans notre cœur. Donc il y a une correspondance. Il y a, n'est-ce pas, notre esprit, esprit qui correspond à l'esprit. Mais le problème, c'est que notre esprit, qui est la partie créée pour Dieu, est caché, est couvert par d'autres choses. Notre âme, notre chair, qui est très fort, qui nous domine, qui nous caractérise, qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Alors quand vous voyez quelqu'un, vous voyez sa personne, sa personnalité, ça c'est son âme. Rarement vous voyez son esprit. C'est rare. Parce que l'esprit est caché à l'intérieur. Il faut que l'esprit sorte. Mais une fois qu'il sort et qu'il touche Dieu, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un feu qui commence, qui change une personne. Pour dire, non, je ne suis pas comme ça, je change, je suis une personne différente. Ma vie est différente. Quand j'ai invoqué le nom du Seigneur, n'est-ce pas, la première fois de ma vie, j'ai dit Seigneur Jésus. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'était pas un rituel. C'était pas un slogan. Mais je contactais une personne. Le Dieu de l'univers. Que j'ai appelé Seigneur. Ça veut dire que je lui appartiens. Il est mon Seigneur. Il a le droit sur moi. Ça veut dire que je n'ai pas de droit. J'abandonne tous mes droits. Parce que maintenant, je ne m'appartiens plus. J'appartiens à une autre personne. Bon, ma vie a changé. Mais le problème, c'est que la question, c'est est-ce que je continue à vivre? Quelle vie est-ce que je vis? Une vie pour Dieu ou une vie pour moi-même? Toujours avec Dieu. Mais Dieu à côté. Dieu derrière moi. Dieu sous mes bras. Je porte Dieu là où je vais. Et quand ça me convient, je le laisse tomber. Et puis quand ça me convient encore, je le récupère. Parce que c'est mon soutien. Ah, c'est mon refuge. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Aide-moi. N'est-ce pas? Je suis dans une situation difficile. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Je viens. Voilà, ben, voilà, voilà comment nous sommes comme cela. Moi je suis comme ça. N'est-ce pas? Toutes nos prières, Seigneur, je t'aime. Ah, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous, vous vous souvenez de vos prières de consécration. Quand vous vous êtes donné au Seigneur pour la première fois, c'est comme si rien d'autre. Rien n'était important. Votre vie, vos affaires, vos études même. Ont perdu leur signification. Quand vous vous êtes consacré au Seigneur, même en pleurant. Moi, je me souviens souvent de cette expérience. Plusieurs expériences. Tout ce que je faisais, j'étais prêt à laisser tomber. Mais le problème, c'est que nous ne continuons pas à vivre. Nous continuons et nous perdons notre fraîcheur, notre zèle, ce feu pour le Seigneur, n'est-ce pas? Cette motivation, Seigneur, toi tu es ma vie. Donc Dieu nous ramène encore et encore. Et donc cette fois, n'est-ce pas, nous voilà encore pour écouter le Seigneur, être éclairé, de savoir, de connaître notre condition. Donc éventuellement Dieu a trouvé quelques vases. Abraham, Moïse, David, dans l'Ancien Testament. Nous avons beaucoup parlé de David hier. Un homme qui a lutté pour Dieu. Qui a gagné Dieu. Gagné les richesses de Dieu. Et que Dieu a gagné. Et qui a préparé tous les matériaux pour la maison de Dieu. Malheureusement, son fils Salomon, qui l'a succédé, il a hérité toutes les richesses de son papa, de son père. Mais le problème, c'est que il n'a pas apprécié ce qu'il a hérité. Et donc, c'était facile pour lui. Tout venait. Il n'avait pas besoin de lutter parce que son papa avait déjà tout fait. C'était un roi de paix, n'est-ce pas? Et donc il est devenu content, satisfait. Il avait tout. Il est même devenu l'homme le plus sage. Mais c'est Dieu qui lui a donné sa sagesse. Il est devenu l'homme le plus riche. Mais pas aussi riche que son père. Mais reconnu par tous. De quoi plus avait-il besoin? N'est-ce pas, nous avons chanté la chanson, n'est-ce pas, tout à l'heure.
Il dira,
tu as besoin de Jésus. Mais pas vraiment. Non, j'ai besoin de Jésus. Oui, j'ai déjà Jésus. Mais ça, c'est pour ceux qui n'ont pas Jésus. N'est-ce pas? Ça, ce cantique-là, c'est un cantique pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Non, voilà comment nous pensons. Ça, c'est pour les non-croyants, les incroyants. Moi, j'ai Jésus. Alors, si vous avez Jésus, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de Jésus. Parce que vous l'avez déjà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la satisfaction. Le contentement. Si nous arrivons à un moment où nous disons je n'ai pas besoin de Jésus, ça veut dire que nous avons perdu déjà Jésus, l'expérience de Jésus. Nous vivons en captivité. Nous sommes rassasiés. Alors Dieu ne peut plus faire, ne peut plus rien faire. Parce que nous sommes arrivés à notre capacité. Dieu peut seulement faire quelque chose quand le vase est vide. Quand il y a encore de la place pour remplir le vase. Dès que le vase est rempli, Dieu s'arrête. Il ne peut plus continuer. Alors, nos vases doivent être vidés. Ça veut dire, Seigneur, je veux plus. J'ai encore besoin de toi. J'ai besoin de toi beaucoup plus maintenant qu'au début. Plus je vieillis, plus je grandis, plus j'avance, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'être vidé. Pour connaître mon Dieu. Le Dieu que je pensais connaître il y a 20 ans. Je ne le connais pas. J'ai encore besoin de le connaître. Parce que mes connaissances d'il y a 20 ans ne comptent pas. Si je ne le connais pas maintenant, si mon Dieu n'est pas réel aujourd'hui, si je ne poursuis pas mon Dieu aujourd'hui, le Dieu que je connaissais il y a 20 ans, c'est passé. Ces expériences-là, oui, elles sont précieuses. Oui, Dieu ne les oublie jamais. Mais comment est-ce que je vis maintenant? Où est le Dieu maintenant? N'est-ce pas comme Élie, comme Élisée a dit? Où est le Dieu d'Élie maintenant? Pas il y a 5 ans. Pas il y a un mois. Comment est notre vie aujourd'hui avec le Seigneur? Où est le feu? Donc nous venons ce matin au message 2. Nous avons lu les versets dans Lévitique, chapitre 25. Où Dieu a commandé à son peuple de cultiver la terre pendant 6 ans. 6 ans de travail. Mais pendant la 7e année, c'était une année de repos, de sabbat. N'est-ce pas? Donc, si vous allez à 1B. Les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Ils ont méprisé le sabbat. Ça veut dire quoi? Donc, 6 ans de travail où ils semaient. Il moissonnait, il, et La septième année, il ne devait pas semer ni moissonner. Mais pour eux-mêmes. Mais toute la récolte, n'est-ce pas? Toute la récolte de la terre pendant la septième année, c'était pas à cause de leur travail, mais à cause de la grâce de Dieu. Et tout le produit de la terre la septième année était pour nourrir tout le monde. Toutes les familles, n'est-ce pas, les serviteurs, les servantes, les mercenaires, les étrangers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà comment le Seigneur m'a touché en lisant ces versets. Les 6 ans de travail, n'est-ce pas? C'est un portrait. C'est un portrait de notre vie de l'Église, de notre vie chrétienne. Dieu, quand il nous a sauvés, il nous a mis dans la vie de l'Église avec des frères et des sœurs dans un environnement où nous pouvons croître. Et c'est ici que nous pouvons vraiment nous donner à cultiver la terre. Ça veut dire à saisir chaque occasion de connaître le Seigneur. Semer, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous semer quelque chose, ça veut dire que vous commencez. Vous commencez. Et vous attendez à une récolte. Donc, vous commencez un rapport avec le Seigneur. Donc, s'il y a certains qui n'ont pas encore commencé un rapport avec le Seigneur Jésus, aujourd'hui, peut-être le premier jour de vos 6 ans. N'est-ce pas? Vous commencez le premier jour aujourd'hui en invoquant le nom du Seigneur. Vous commencez à semer. Ça veut dire que vous semez, vous commencez votre vie chrétienne. Votre vie commence à avoir de la valeur. Donc, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, croyez au Seigneur. Le Seigneur est réel. Il est mort pour vous. Il est mort pour vos péchés. Il est l'Esprit aujourd'hui. Le Jésus crucifié et le Jésus ressuscité.
Amen.
Si vous l'acceptez comme votre sauveur, il va entrer en vous comme une semence incorruptible. Il sera en vous. Vous aurez une autre personne dans votre esprit. Ça, c'est le début de la période de 6 ans. Maintenant, si vous avez reçu le Seigneur, comme beaucoup d'entre nous, comme la semence, qu'est-ce que vous faites avec le Seigneur? Comment est-ce que vous le cultivez? Un fermier, un agriculteur doit cultiver la terre. Je n'ai pas besoin d'en parler parce que vous connaissez beaucoup mieux que moi. N'est-ce pas? Donc, de la même façon, dans la vie chrétienne, nous devons cultiver le Seigneur en nous. La semence qui est en nous doit croître. Donc, le Seigneur nous donne 6 ans. Ça veut dire quoi, 6 ans? Est-ce que c'est 6 ans de 6 ans physique? 6 ans réel? Non. Dans l'Ancien Testament, oui. Mais aujourd'hui, non. Mais ça veut dire quoi? 6 dans la Bible, 6 signifie l'homme. N'est-ce pas? Parce que Dieu a créé l'homme le sixième jour. N'est-ce pas? Et donc, 6 signifie quoi? Signifie l'homme en responsabilité. Ça veut dire que Dieu nous a confié quelque chose. Il nous a confié lui-même. Nous avons un trésor. Une semence qui est un trésor. Qui est le Seigneur lui-même. Qu'est-ce que nous faisons avec ce trésor? Nous avons 6 ans. Ça veut dire que nous avons une bonne période de temps de cultiver, de nous exercer, de venir au Seigneur, de toucher le Seigneur, d'être avec les frères et les sœurs. Donc, si vous êtes dans la vie de l'Église et vous n'êtes pas avec les frères et les sœurs, il y a quelque chose qui manque. Les rassemblements de l'Église sont les meilleurs endroits de croître. Si vous ratez les réunions, les rassemblements, je m'excuse, mais vous n'aurez pas la possibilité de croître. Un chrétien, n'est-ce pas, qui ne vient pas au rassemblement, c'est comme un poisson qui n'est pas dans l'eau. L'eau, c'est sa vie. N'est-ce pas? C'est comment il vit. Les rassemblements, c'est là où nous vivons. C'est là où nous apprenons qui est le Seigneur. C'est là où nous apprenons à louer le Seigneur. C'est là où nous apprenons à suivre le Seigneur. Sans les réunions, votre vie sera comme un arbre qui ne pousse pas bien. N'est-ce pas? Ici, il y a tous les ingrédients. Voilà, vous regardez, tous les frères et les sœurs. Chacun avec Christ. Vous voulez voir Christ? Vous voulez connaître Christ? Regardez autour de vous. Où est Christ? Christ est dans les saints. Amen. Christ est en nous. N'attendez pas une vision céleste. Si vous restez chez vous à la maison, vous attendez une vision, une révélation. Je ne sais pas si ça va venir. Vous venez ici à la réunion. Vous aurez une vision. Qui est Christ? Christ est dans le frère ou la sœur à côté de vous. Voilà comment j'ai appris à suivre le Seigneur. Les réunions, n'est-ce pas? Et être avec, lié, être lié au frère. Être soumis aux frères, à ceux qui sont plus âgés. Parce que c'est là où nous apprenons, n'est-ce pas, nous apprenons l'autorité du Seigneur. Voyez, tout ça, ce sont des expériences pendant les 6 premières années. Si vous voulez obéir à Dieu, comment est-ce que vous allez obéir à Dieu si vous ne pouvez pas vous soumettre au frère qui est à côté de vous? C'est comme Dieu, Jean dit, n'est-ce pas? Quoi? Vous voulez aimer Dieu que vous n'avez pas vu? Et vous n'avez pas le frère à côté de vous que vous voyez? Vous rêvez. N'est-ce pas, vous? Vous êtes dans les nuages. Voilà, ça c'est vraiment c'est. Mais souvent, nous vivons notre vie chrétienne dans les nuages. Non, Dieu nous a placés sur la terre. La terre, c'est quoi? C'est la vie de l'Église. Ce sont les frères et les sœurs à côté de nous. Les formations. Ah, les conférences. Ne les méprisez pas. Parce que c'est là où, encore une fois, nous apprenons à croître. Vous voyez, tout ça, c'est la fondation. Est-ce que nous sommes contents d'être des chrétiens du dimanche matin? Oui, à ce moment-là, pas besoin d'aller aux formations, pas besoin d'aller à des conférences.
Donc,
on peut être un chrétien isolé, individuel, venant une fois par semaine. Ça va. Mais est-ce que vous voulez ça? Ou est-ce que vous voulez plus? Qui est le Seigneur pour vous? Quelle est sa valeur? Telle la valeur du Seigneur. Telle la réponse. N'est-ce pas?
Judas,
il a vendu le Seigneur. Selon une certaine valeur. Bon, mais ça, pour lui, c'était la valeur du Seigneur. C'était son estimation. Quelle est notre estimation du Seigneur? Plus il a de la valeur, plus je me donnerai à lui. Moins sa valeur, moins ma consécration. Donc, les six ans, cette période-là, je pense que beaucoup d'entre nous ont passé ou sont en train de passer cette période. Mais il y a la 7e année. Et c'est très intéressant. Cette 7e année, ce sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Où on s'arrêtait de semer.
Non, notre nous papa
de récolter. Mais la terre produisait quelque chose. Ça veut dire que il y avait de la nourriture pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 6 ans, nous sommes dans la vie de l'Église. Nous avons beaucoup bénéficié. Il y a beaucoup ici, n'est-ce pas? Vous avez assisté à beaucoup de choses. À des formations. À des conférences. Vous avez écouté beaucoup de choses. Vous avez lu beaucoup de choses. Et tout ça, c'est essentiel. Sans ces choses-là, il n'y a pas de base. N'est-ce pas? Donc il faut une bonne base. Mais avec la base, il arrive une 7e année. Et cette 7e année, c'est une année de liberté. Ça veut dire quoi? Je suis libre de faire ce que je veux faire. Non. La 7e année, c'est là où nous pouvons nous exercer. À développer ce que le Seigneur nous a donné pour croître, pour nourrir ceux qui sont autour de nous. C'est notre responsabilité. Cette 7e année devient mon terrain, un terrain où je peux, n'est-ce pas, je peux développer. J'ai la liberté de développer ce que le Seigneur m'a donné. Donc, il y en a beaucoup, ou certains, plusieurs, n'est-ce pas, qui... Vous avez quelque chose du Seigneur, des richesses, une certaine constitution. Est-ce que vous développez? Ou est-ce que vous devenez vieux? Spirituellement. Ah, c'est facile. Il est facile qu'une vieillesse entre dans la vie de l'Église. Ça veut dire que j'ai déjà fait ça. Je suis déjà allé là. J'ai déjà assisté à tant de réunions. Je suis devenu un frère avec une certaine réputation, une certaine position. Ça, c'est la vieillesse. Dieu ne cherche pas de position. Il ne veut pas voir des frères ou des sœurs qui sont routiniers. Qui ont écouté beaucoup de choses, appris beaucoup de choses, mais pas beaucoup de fruits. La septième année, c'est une année de fruits. C'est quelque chose que le Seigneur donne. Mais c'est par la grâce du Seigneur. N'est-ce pas? Voilà pourquoi ça s'appelle le le sabbat. Le sabbat, c'est le repos. Mais le repos ne peut pas dire je ne fais rien. Ah, je reste à la maison et je dors. Ou je regarde la télévision. Ou je gaspille mon temps, n'est-ce pas, en faisant des choses. Non, ça ce n'est pas le repos. Le repos, le sabbat, c'est la jouissance du Seigneur. C'est la jouissance de ce que le Seigneur nous a donné. Les talents, les richesses que le Seigneur nous a donné. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? Donc, est-ce que nous prêchons l'évangile? Ben, j'ai déjà fait ça. Quand j'étais jeune, il y a eu des réunions ou des croisades, des sorties évangéliques. L'église en faisait. Mais peut-être que l'église n'en fait plus. Alors je m'arrête de prêcher l'évangile. Parce que l'église n'a pas de sortie évangélique depuis quelque temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes vieux. Vous êtes la vieillesse, n'est-ce pas? C'est une maladie. Je veux dire, la vieillesse spirituelle, c'est une maladie. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui entre subtilement. Et même ceux qui sont jeunes physiquement peuvent être affectés. Parce que l'évangile, n'est-ce pas? Parce que personne ne nous empêche de prêcher l'évangile. Alors, donc, cette septième année, c'est une année d'exercice, de repos. Mais de repos, n'est-ce pas, dans le Seigneur, de jouir de ce que le Seigneur nous a donné. Alors, pourquoi pas, par exemple, n'est-ce pas, il y a des frères qui visitent d'autres localités. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller visiter ces localités? Avec les frères. Dieu cherche des vases. Dieu cherche des vases qui puissent collaborer avec lui. Qui puissent développer. Qui puissent cultiver. Mais si nous sommes là, contents, mais peut-être nous attendons qu'on nous reconnaisse. N'est-ce pas, nous ne sommes pas contents dans la vie de l'église. Nous sommes là depuis des années. Il n'y a rien qui se passe. N'est-ce pas? Oui, c'est très facile d'avoir cette attitude. Dieu ne cherche pas des gens qui cherchent des positions. Être frère dans la vie de l'église. Être quelqu'un dans la vie de l'église. Ou être content d'être dans la vie de l'église. Mais quelqu'un qui est toujours en train de chercher le Seigneur. Comment est-ce que je peux, Seigneur, comment est-ce que je peux te suivre? Comment est-ce que je peux m'exercer? Où sont mes fruits? Alors, peut-être que vous pouvez, peut-être que vous dites, personne ne me reconnaît. Je ne suis pas... j'ai envie de m'occuper ou de d'être responsable de quelque chose dans la vie de l'Église, peut-être d'un service. Mais on ne m'a pas demandé. On ne m'a pas reconnu. Ok. Est-ce que nous sommes contents d'être comme ça? Ça, c'est les six premières années. On est là. On est là. N'est-ce pas? On fait des choses. Mais pas beaucoup de fruits. Qu'est-ce qui nous empêche de servir? Dieu n'a pas interdit. Les frères n'ont pas interdit. Servir, c'est notre privilège. Alors, vous voulez, par exemple, vous voulez vous occuper des jeunes. Vous avez un fardeau pour les jeunes. N'attendez pas qu'on vous donne la responsabilité d'être responsable des jeunes. Non, ça c'est une honte. Plutôt, appelez, établissez un rapport avec un jeune. Connaissez les jeunes. N'est-ce pas? Ça c'est. Vous avez un fardeau pour les jeunes. Ce n'est pas un titre. Maintenant je suis responsable des jeunes. Non, c'est une vie. Un rapport de vie. Est-ce que vous connaissez un jeune? Est-ce que vous priez avec un jeune? Est-ce que vous lisez la Bible avec un jeune? Ça c'est vrai. Les autres choses sont fausses. On m'a élu tel ou tel. Non, dans la vie de l'Église, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas telle ou telle personne m'a choisi. Non, c'est une manifestation de vie. Ça c'est le sabbat. Le sabbat n'est pas organisé. C'est quelque chose de vie, une manifestation de vie. Donc, quand il y a un besoin, vous voyez un besoin dans la vie de l'Église, qu'est-ce qui vous empêche de vous adresser à ce besoin? On n'a pas besoin d'être tel ou tel frère ou telle sœur. On n'a pas besoin d'être diacre, serviteur. On peut répondre aux besoins pour commencer à s'exercer. Donc, repousser toute pensée de position. Dans la vie de l'Église, il n'y a pas de position. Ça, c'est la vieillesse. Non, il n'y a que la vie. Il n'y a que l'opération en vie. Donc, ce qui est très précieux, c'est quand deux frères
se réunissent pour prier. Pour moi, ça c'est réel. Ah, on n'a pas besoin d'appeler ce frère-là. Ah, il est serviteur. Il est serviteur. Il sert l'autre frère. Non, si je suis dans le Seigneur, je n'ai même pas l'idée que je sers ce frère. Plutôt, ce frère me sert. Ah, vous pensez que vous servez quelqu'un? En fait, c'est lui qui vous sert. C'est lui qui vous aide. Vous voyez? Donc, ça c'est la nourriture. C'est ça qui nourrit les saints. Ce n'est pas la position, ce n'est pas l'organisation, ce n'est pas l'agencement, n'est-ce pas? Mais c'est la manifestation de vie.
Amen.
Donc, le sabbat, c'est précieux. La septième année. Mais c'est très intéressant. Après la septième année, le cycle recommence. Il y a encore les six années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous développons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour notre croissance. Mais c'est pour l'Église. Donc, vous devez revenir. Ne dis pas, ah, je développe quelque chose. Je suis libre de faire ce que je veux. Regarde mes fruits. Non, non, les fruits ne sont pas pour vous. Les fruits sont pour la jouissance de tout le monde. Donc il faut ramener les fruits à l'Église. N'oubliez pas ceux qui vous ont élevé, suscité. Ne dites pas que, oh, maintenant, je suis indépendant. Je n'ai plus besoin des anciens. Je n'ai plus besoin des frères plus âgés ou des sœurs plus âgées. Non. Non, vous leur devez votre vie. Parce que c'est eux qui vous ont permis de croître. C'est eux qui vous ont laissé vous développer. Vous vous souvenez de la quantité de prières, les prières qu'on a données au Seigneur pour vous, pour que vous puissiez vous développer. Les pleurs, les larmes, n'est-ce pas, qu'on a versé. Seigneur, garde ce jeûne. Seigneur, qu'il puisse se développer. Seigneur, à l'école, sois avec lui. Seigneur, qu'il puisse contacter ses amis. N'est-ce pas? Et puis vous devenez un jeune, n'est-ce pas, zélé pour le Seigneur. Et vous évangélisez vos camarades. Oui, mais ce n'est pas pour vous-même. C'est pour l'Église. N'oubliez jamais votre source. D'où nous venons. N'oubliez jamais vos parents. N'oubliez jamais vos parents. Ce n'est pas vos parents physiques et vos parents spirituels. Donc, nous rentrons dans les six prochaines années. N'est-ce pas? Le cycle continue. Ça, c'est notre expérience dans la vie de l'Église. Nous sommes soumis, n'est-ce pas, aux anciens, nous sommes soumis les uns aux autres. Nous n'agissons pas indépendamment. Mais nous avons la liberté de nous développer. De nous servir de ce que Dieu nous a donné. Mais toujours selon le modèle que le Seigneur nous a donné. Ne dites jamais, ah, maintenant, je sais comment le faire. Alors, je n'ai plus besoin du modèle. Je n'ai plus besoin de ce que le Seigneur nous a montré. Non, non. Vous êtes ici à cause de ça. Moi, je suis ici à cause de quelques frères ou de beaucoup de frères. Je peux les nommer, n'est-ce pas? Et il y en a beaucoup que je ne connais même pas. Mais combien je suis responsable, je suis redevable? Combien je dois à ses frères? Pour ce qu'ils ont fait pour moi. Pour que je puisse me développer. Pour que je puisse m'exercer. Mais dès que, une fois que je dis, ah, je suis autosuffisant, je n'ai plus besoin d'eux, je suis fini. Je suis en captivité. Même ma vie chrétienne, c'est fini. Ça reste. Non, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de l'Église. J'ai besoin de retourner. Alors, si vous avez cette attitude, que maintenant vous pouvez vous passer, vous pouvez vous débarrasser des frères, parce que vous savez comment le faire, vous êtes dans l'erreur. Ça, c'est la captivité. Non, vous avez encore besoin des six ans. N'est-ce pas? Donc, voilà un peu mon fardeau pour ce matin. Levez-vous. Levons-nous. Surtout ceux qui ont expérimenter quelque chose, qui ont une certaine constitution. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est en vous? Vous vous rendez compte ce qui est en vous? Plus, n'est-ce pas, le Seigneur dit à celui qui a reçu plus, plus sera plus sera demandé.
Oui.
Oui. Donc voilà, donc ce n'est pas quelque chose de léger. Nous arrivons tous à un moment ou à un moment où nous faisons face à une crise dans notre vie spirituelle. La crise, c'est: Seigneur, y a-t-il quelque chose de plus? Que veux-tu que je fasse? N'est-ce pas? ce que tu m'as donné, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que moi je suis satisfait du fruit que j'ai produit? Seigneur, je sais qu'il y a encore quelque chose de plus. Est-ce que nous sommes prêts à nous donner au Seigneur? Passer par cette crise. N'est-ce pas? À briser, n'est-ce pas? Avoir un quoi? Une sorte de délivrance. Expérimenter une délivrance, n'est-ce pas? Où nous pouvons passer par cette barrière pour trouver le Seigneur et pour le satisfaire. Amen.
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 Et Dieu les a confus. Et ils ne sont pas arrivés à construire cette
chose.
Et j'ai entendu un jeune dire au Ghana. Il dit, les anciens, aie patience. Si l'église est venue maintenant dans notre main, tout ce que vous faites, nous allons le changer. Peut-être tu l'as jamais dit ici, mais tu l'as dans ton cœur. Si tu as cette parole dans ton cœur, tu es misérable là.
Amen.
Parce que nous faisons ici, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien de ce qu'on fait ici. Toi, patient que toi. Si ça vient à moi, je vais tout changer.
Et nous, vraiment,
nous, ce que
vous faites
là, c'est de la
faire selon le
Dieu a ses voies.
Amen.
Tout le monde m'a dit, tu ne passes pas par ses voies. Tu te trompes. Tu ne vas jamais atteindre. C'est pourquoi je vous en prie. Si tu as cette parole dans ton cœur,
je vous fais.
Enlève en même temps. Pour le vérité, pour le vérité, ça, pour le vérité à côté. Ne dis pas ici. Demande plutôt à Dieu. Demande à Dieu, Dieu, quel est le chemin que tu
tiens de toi?
Comment parvenir à toi? Ce n'est pas mon chemin. Ni le chemin du monde.
Ah.
Mais toi, ton chemin.
Amen.
Tu vois Cain et Abel, ils sont venus s'amuser
avec
Dieu. La Bible dit que le sacrifice au développement de Abel a été présenté. Et il a rejeté celui de Cain.
Et
l'enfance.
D'accord.
Dit que quand il a donné ses semences, c'était un misérable. C'est faux. Dieu nous a montré comment, si nous péchons, comment faire pour le coup parvenir à lui. Si tu as péché et que tu voulais encore venir vers Dieu, là on doit verser le sang. Pourquoi en Hébreu 9, verset 27,
Si
tu sens l'infusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché.
Amen.
Pourquoi penser que ton bienfait va effacer tes péchés pour entrer dans la présence de Dieu? Non?
Tu peux
faire beaucoup de bonnes choses.
Ces
bonnes choses ne peuvent jamais effacer tes péchés devant Dieu. Tu ne peux jamais entrer dans la présence de Dieu. Tes péchés demeureront toujours. Péché dans la présence de Dieu.